Bonjour tout le monde. J'ai demandé à ce qu'ils mettent le micro assez fort parce que ma voix baisse. Et je pensais, quand Emmanuel disait tout à l'heure que s'il y a des choses qui traînent, il faut s'en débarrasser. Et je pensais à moi. Je me suis dit, il faut faire attention avec quand on traîne les pieds dans l'église. Donc voilà. On en est, ça n'a pas échappé à qui que ce soit. On est au bord du commencement d'une nouvelle année. Et comme on dit, ça, chaque année, on fait des projets, on prend des résolutions. On essaye de dire, voilà, je vais changer telle et telle chose dans ma vie pour l'année prochaine. Ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Ce n'est pas une mauvaise chose que de pouvoir faire utiliser un tournant dans la vie pour pouvoir faire des nouvelles résolutions. Le problème, c'est que, comme on sait, comme chacun sait, on ne tient souvent on ne tient pas nos résolutions. On change après quelques jours. Il y a des gens qui ont décidé d'arrêter de boire de l'alcool et après quelques jours, c'est déjà raté leur projet. Donc, ce sur quoi je vais insister ce matin, c'est sur le fait de prendre effectivement des résolutions, mais de les tenir, et notamment sur la question de la personnalité, sur la question du caractère, sur la question des réactions. Parce que les comportements, comme on le dit souvent, les comportements volontaires, on peut réussir à les dominer. C'est notre dimension charnelle, notre dimension animale, et on arrive à contrôler si on fait de l'effort. Mais il est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, qui est en dehors de notre portée. C'est le caractère profond. Et comme j'ai dit, j'ai déjà dit ça dans le passé. Qu'est-ce que le caractère? C'est un esprit, parce que c'est ça qui anime notre vie, n'est-ce pas? Quand vous rouspétez toujours, par exemple, eh bien c'est quelque chose, c'est une force qui se manifeste au travers de vos paroles, au travers de vos comportements. Donc c'est un esprit. Et quand vous dites « j'ai mauvais caractère », si le caractère c'est un esprit, vous êtes en train de dire « j'ai mauvais esprit ». Vous comprenez le sérieux de la question. Ce n'est pas une question de comportements qui peuvent être changés. Les comportements peuvent être façonnés par l'environnement dans lequel on évolue. On peut, si vous allez davantage dans l'église, dans les réunions, ça va modifier votre comportement davantage. Mais votre caractère, c'est l'esprit qui vous anime. Et cela, ça doit être remis au pied de la croix. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que l'œuvre de Dieu dans vos vies, dans ma vie, qui peut changer ma personnalité, mon caractère. Et comment cela est possible? La première chose, c'est de prendre conscience, très sérieusement, de ce qui ne va pas dans notre vie. Pas de ce qui ne va pas dans la vie des frères et sœurs, mais des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et les identifier et demander au Saint-Esprit de faire son œuvre dans nos vies, de renoncer verbalement devant le Seigneur à tous ceux qui peuvent nous entraîner dans un caractère, dans des manifestations, dans des réactions qui ne sont pas du Seigneur. Et le Seigneur va nous aider à marcher de progrès en progrès, pendant cette année qui vient, mais aussi pendant les autres années. J'aimerais vous parler de plusieurs hommes qui ont marqué la vie de David. Vous savez que David était roi d'Israël, et au début il était roi de Juda. et ensuite il a été roi d'Israël et Juda. Et David était un homme qui avait le cœur de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il avait cette personnalité qui était comme le Seigneur. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Si on s'appelle chrétien, c'est qu'on déclare que le Seigneur habite en nous et qu'on incarne le Seigneur Jésus. C'est incompatible avec certaines choses de nos réactions. Mais en tout cas, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, on déclare que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si on déclare que l'Esprit de Dieu habite en nous, on n'a pas le droit, c'est juste une question qu'on n'a pas le droit de manifester autre chose que le Seigneur Jésus. Parce que si vous dites « je suis chrétien » et que vous avez des mauvaises réactions, des mauvaises façons d'agir, de penser, de réagir, vous êtes en train de dire que c'est le Seigneur à l'intérieur de vous qui est en train de réagir comme ça. Et vous ne pouvez pas, on ne peut pas. Ça ne peut pas être ainsi. Comme le dit l'apôtre Jacques, mes frères, il ne doit pas être ainsi. Quand il dit qu'il demande si une source d'eau peut donner de l'eau douce et de l'eau amère, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un arbre peut donner des bons fruits et des mauvais fruits en même temps? Ce n'est pas possible. Donc, on a besoin de l'œuvre de Dieu. Et si c'est quelque chose qui vous interpelle, alors réglez-le aujourd'hui devant le Seigneur, en lui demandant que dès aujourd'hui, n'attendez pas le 1er janvier, dès aujourd'hui, le Seigneur fasse son œuvre dans votre vie d'une manière radicale. Et il le fera. Parce qu'il donne son esprit. Et les hommes dont je ferai mention dans la vie de David, dans l'environnement de David, c'était des hommes qui n'avaient pas le cœur de Dieu. David avait le cœur de Dieu, mais il était entouré de personnes qui n'avaient pas forcément le cœur de Dieu. Et un de ces hommes, c'était Joab. L'autre, c'était Abner. Tous les deux la même fonction. Chef militaire, chef de l'armée. Et c'était deux hommes extrêmement précieux pour David. Heureusement qu'il a eu ces hommes-là. Mais c'était des hommes qui avaient des problèmes fondamentaux de caractère et de personnalité. Le premier, c'est, oui, je devrais dire chronologiquement, le premier, c'était Abner. Je vais donc parler de lui en premier, bien que je pensais parler de lui en deuxième. Abner, ça veut dire père de quelque chose de très positif. En fait, ça dépend les traductions, mais c'est père de la lumière ou quelque chose comme ça. Mais il était appelé fils de Ner, parce que son père s'appelait Lumière. Ça veut dire père de lumière. Donc ça veut dire qu'il était père de lumière, mais on l'appelait fils de Ner. Ça veut dire fils de la lumière. Il était dans une situation ambiguë, parce que déjà son nom voulait dire quelque chose, et on l'appelait fils de Ner. Donc père de la lumière et fils de la lumière. Donc en fait, il n'avait pas de position de père ou de fils. Il était à la fois père et fils. Et dans son caractère, dans sa personnalité, c'était un chef, c'était un homme dur, un homme qui était père et fils en même temps, mais qui n'avait pas d'identité de fils soumis à son père. Et dans nos vies, ça peut être comme ça. Ça peut être que on est fils, mais on se prend pour des pères. On est soumis, on devrait être soumis, mais on se prend pour des chefs. Et cet homme, a été un très bon général de l'armée de David, mais c'est un homme qui avait cette double personnalité. Au lieu d'être soumis, il était dominant. Et il avait cette confusion entre son rôle de père en tant que chef militaire, mais aussi son rôle en tant que fils, parce qu'il était au service de David. Et ce rapport était inversé parfois. Prenait des décisions et prenait des positions qu'il n'aurait pas dû prendre. Et notamment, il a été fidèle à un moment donné à la maison de Saül. Saül était mort et il a voulu prolonger le règne de Saül après la mort de Saül. Et vous savez que Saül est un homme qui n'avait pas le cœur de Dieu, un homme qui était humble au début, mais très vite on voit sa dégringolade spirituellement, parce qu'il y avait dans son cœur de l'orgueil, parce qu'il avait décidé de vivre sa vie en tant que roi plutôt que celle que Dieu voulait pour lui. Et donc, Saül, lorsqu'il est mort, Abner est allé chercher son fils Ish-bosheth, le fils de Saül, en disant « Voilà, c'est le successeur de Saül. » Et il a cherché un successeur à Saül. Dans un sens, il n'avait pas tort, parce que quand on était roi et qu'on mourait, c'était le fils du roi qui continuait, qui reprenait le trône. Donc, d'une certaine manière, c'était cohérent qu'il cherche un fils de Saül pour continuer le royaume. Mais il n'a pas choisi David. Il aurait dû choisir David. Il a choisi Saül. Et c'était son choix. Et il s'est séparé, il a quitté David. Et peut-être que dans nos vies, on a pris des résolutions, on a pris des décisions qui nous ont séparés de Dieu, pas de David, mais de Dieu. On a pris des positions qui nous ont séparés et on s'est séparés de Dieu pour faire notre volonté. Et sa volonté, c'était que Saül, le règne de Saül puisse continuer au travers de son fils. Mais le fils de Saül, que Abner a pris pour mettre sur le trône, c'était un homme extrêmement faible. Et Abner avait la main mise sur lui. C'était Abner qui gouvernait, qui dirigeait et faisait prendre les décisions à Ish-bosheth, le fils de Saül. Voyez le plan stratégique. Abner était très heureux avec le fils de Saül parce qu'il pouvait dominer et le contrôler. Et qu'il voulait que sa volonté soit faite au travers de Ish-bosheth. Et ça, c'était un problème fondamental. Cet homme était lié par ça. Et il y a sur la terre, vous en connaissez, des gens qui sont liés par cet esprit de domination, qui sont d'une certaine façon dans l'ombre, mais qui gardent un contrôle sur les vies, qui veulent à tout prix que gouverner, diriger les vies. J'ai parfois utilisé cette illustration de la télécommande, n'est-ce pas ? Et dans certains cas, on aimerait beaucoup avoir une télécommande qui, quand on bouge, quand on touche les touches de la télécommande, eh bien les gens font tel geste, réagissent de telle manière, etc. Pour que notre volonté soit faite au travers de cette personne. En quelque sorte, on veut être l'esprit qui anime telle et telle personne. Et lui, c'était son cas. Il voulait être l'esprit qui anime le roi, de sorte à ce que sa volonté puisse se faire. Puisque Abner, qui avait été le chef de l'armée de Saül, voulait continuer à gouverner ou à diriger le gouverneur issu de Saül, eh bien, David avait besoin d'un autre chef militaire. Et il a trouvé encore mieux. Il a trouvé encore mieux en matière militaire. Il a trouvé mieux en matière de compétences. Mais il a trouvé aussi quelqu'un qui était pire au niveau du caractère. Et c'était Joab. Et Joab, c'est un homme qui ne se soumettait pas. Il était un chef. De manière intéressante, il avait donc deux frères, on va les mentionner aussi tout à l'heure. De manière intéressante, il est appelé Joab, fils de Tseruya. Et Tseruya n'était pas son père, c'était sa mère. C'est très rare dans l'Ancien Testament. Une personne était identifiée comme étant le fils de son père. Mais Joab, son frère Abishai et son deuxième frère Azaël étaient les fils de Tseruya. Pour la petite histoire, Tseruya était la sœur de David. Donc ils étaient de famille royale, mais il avait un de ses caractères trempé, bien trempé. Et on peut dire, c'est un homme compétent. C'est ça qui est extraordinaire, performant et compétent. Parfaitement adapté, semble-t-il, pour un général, mais pas adapté pour le service de Dieu du tout. Et Joab, ça veut dire Dieu est père. Et il était appelé fils de Tseruya, c'est-à-dire fils de sa mère. Il est très possible qu'il n'avait pas de père, que son père était mort. Mais en tout cas, il n'avait pas de père dans sa vie. C'est clair. Son nom voulait dire, son nom proclamait Dieu est père. Mais il ne pouvait certainement pas dire Dieu est mon père. Parce qu'il était insoumis. Insoumis à David. Insoumis à Dieu. Et il appliquait sa loi et sa volonté. Et je ne sais pas, ça me semble une suggestion très probable qu'il n'avait pas de père et que c'est sa mère qui l'a élevé et que ça a développé chez lui ce caractère, cette personnalité de dominateur, d'homme de la maison. Mais en tout cas, son cœur était loin d'être soumis. Il inversait les rôles, et vous savez que c'est la définition de la perversion. Perversion, on voit quelque chose de très très mal, mais la perversion, ça veut dire quand on inverse quelque chose. Et il inversait les rôles. Abner le faisait aussi, mais Abner, c'était moins fort que Joab. Joab inversait les rôles. David, tu es roi. Moi, je suis seulement ton général. Mais David, tu vas apprendre que c'est moi qui gouverne et que toi, tu vas te soumettre à mes ordres. Son cœur était pervers. Son cœur était l'inverse de ce qui devait être. Et le cœur de l'homme est pervers. Par-dessus toute chose. L'apôtre Paul dit qu'on doit briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. La perversité, c'est le principe des êtres humains. Et c'est quelque chose que l'on fait systématiquement si on n'a pas l'Esprit de Dieu qui nous gouverne. On cherche à dominer les autres. Vous voyez ça dans les cours de récréation des enfants, à l'école, le désir de dominer, de diriger, de contrôler. Vous savez que les psychologues, ou soi-disant psychologues, ont trouvé le symptôme ou la maladie idéale pour les gens qui veulent divorcer. Ils disent à la femme, votre mari, il ne faut pas lui en vouloir. C'est un pervers narcissique. Je ne sais pas combien de gens, d'hommes ont été qualifiés de pervers narcissiques. Et ma question, c'est qui n'est pas pervers narcissique? La question, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui semble savant, mais qui ne veut rien dire, ou qui veut dire, qui peut décrire n'importe qui. Pervers, ça veut dire qu'on inverse les rôles, et narcissique, ça veut dire qu'on s'aime bien soi-même. Et c'est le drame de l'humanité. Donc c'est aucun problème pour se reconnaître comme étant narcissique. On est en train de se voir dans... Vous savez que Narcisse a vu son reflet dans l'eau et il est tombé amoureux de son reflet. Ou il est tombé amoureux de lui-même en voyant son reflet. Et bien sûr, vous n'êtes pas comme ça quand vous regardez dans la glace, vous ne dites pas « Oh, c'est magnifique ». Vous savez qu'il y a une femme, on raconte, c'est pas vrai, mais bien sûr, qui est allée voir son pasteur et a dit « J'ai un problème d'orgueil parce que quand je me regarde dans le miroir, j'éprouve de l'orgueil ». Le pasteur lui a dit « Non, il ne faut pas vous troubler, madame, une erreur, ce n'est pas un péché ». Ça a mis la femme à sa place. Mais on est tellement amoureux de nous-mêmes, on s'aime soi-même tellement que on est narcissique et on est pervers parce qu'on inverse les rôles, parce que c'est Dieu qui doit être admiré, c'est Dieu qui doit être aimé et nous on doit se mettre en dessous. Mais c'est la fraction, elle est inversée. C'est nous au-dessus et Dieu en dessous. Et vous savez que le Seigneur sait que les hommes et les femmes sont troublés par la perversité. Alors il donne la possibilité d'inverser cette inversion. Et si vous inversez cette inversion, vous trouvez l'ordre normal des choses. Il vous donne la possibilité de venir à lui ce matin et de dire « Seigneur, j'ai inversé les rôles. Je me suis mis au numérateur et je t'ai mis au dénominateur. Alors que c'est toi qui dois être au numérateur et moi je dois être au dénominateur. » C'est tellement important, de faire la volonté de Dieu. Vous savez, on a pris la Sainte Cène tout à l'heure. C'est très important et Michael a bien fait de souligner le fait que si on prend la Sainte Cène indignement, sans discerner le corps et le sang de Jésus, on attire un jugement sur nous-mêmes. Et ça, tout le monde est d'accord. Mais vous savez, si vous lisez Romains 13, vous avez une autre situation pour laquelle l'apôtre Paul prédit que ça attire un jugement sur nous-mêmes. C'est si vous parlez contre les autorités. Donc peut-être vous allez dire, j'ai pris la Sainte Cène en discernant le corps et le sang de Jésus. Donc je suis digne de prendre la Sainte Cène, ou je peux prendre la Sainte Cène. Mais si tu as parlé contre les autorités que Dieu a instaurées, alors tu attires un jugement contre toi-même aussi. Parce que Dieu, c'est pas que Dieu dit les autorités sont bien. Les autorités vont toujours prendre les bonnes décisions. C'est pas ça. C'est que quand tu parles contre les autorités, tu es en train de te positionner en tant que juge des autorités, alors que tu dois être soumis aux autorités. Vous devez prier pour le président de la République. Vous devez prier pour les ministres. Au lieu de dire ce qu'il doit faire, au lieu de dire ils font n'importe quoi. Vous savez que c'est ce que Joab a dit à David. Lorsque David a accueilli Abner, qui s'était repenti, qui a finalement quitté Ish-Boshet, et il est venu vers David en disant « Je reviens vers toi ». David l'a accueilli. Et pendant ce temps-là, il était tranquille, David, parce qu'il savait que Joab était en mission. Mais quand Joab allait rentrer, David a dit à Abner, voilà, il faut que tu rentres chez toi maintenant, parce qu'il savait que Joab allait réagir mal. Et quand Joab a appris que Abner était venu, il est allé voir David et lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Voyez le dominateur, qu'est-ce que tu as fait? Quelle autorité avait-il de parler au roi comme ça? Aucune autorité. Il était pervers, il avait inversé les rôles. Au lieu de se voir soumis au roi, il était maître du roi en disant « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et on entend souvent des gens, mais ça ne doit jamais s'entendre chez des chrétiens qui disent « Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils font ?» Les autorités. Vous devez prier pour eux, pour elles. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur donne son Saint-Esprit pour qu'ils dirigent correctement. Nous avons dû apprendre à nos enfants de ne pas appeler le président par son nom de famille seulement. Vous ne devez pas appeler le président Macron, juste dire Macron, vous devez dire le président ou monsieur. Ah, peut-être vous allez me juger, vous allez dire ça y est, il est en train de enseigner des choses ringardes. C'est important parce que vous attirez un jugement contre vous-même si vous parlez contre les autorités ou si vous prenez une ascendance sur les autorités. Le Seigneur nous garde en ça, afin qu'on ne soit pas pervers. Mais Joab, quand il a su que Abner est venu pour faire la paix avec David, il n'était pas comme le frère du fils prodigue qui était mécontent. Il est allé plus loin que le frère du fils prodigue. Il a dit, il a pensé déjà, eh bien je vais régler le compte d'Abner. Et il est allé à la rencontre d'Abner, et en tant que bon pervers, il est allé près d'Abner d'une manière gentille, comme s'il allait lui donner un message particulier. Et il a profité de ce moment où ils étaient à deux pour tuer Abner. On voit ce cœur de dominateur, ce cœur d'insoumission. Mais le Seigneur veut changer ces choses-là. Le Seigneur veut changer cette chose dans la personnalité qu'on a. Ce n'est pas forcément du tout quelque chose de violent. Ce n'est pas qu'on domine comme Joab de manière violente. Mais ça peut être dominer dans une certaine dimension, de manière légère, mais là où on ne devrait pas dominer, et notamment vis-à-vis des frères et sœurs. Vis-à-vis des frères et sœurs dans l'Église, il n'y a aucune domination des uns sur les autres. Il n'y a aucune domination des anciens sur les gens de l'Église. Ça serait de la perversité. On doit considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Mais vous allez dire, mais comment je peux considérer, moi qui ai, je ne sais pas, 50 ans vie avec Christ, comment je peux considérer un jeune converti comme étant au-dessus de moi? Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous avez 50 ans de conversion, vous avez besoin beaucoup d'entendre des jeunes convertis et de voir le zèle et l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Vous avez à apprendre d'eux. Vous avez à recevoir d'eux. Et si vous prenez la mauvaise position, la mauvaise inversion, eh bien vous risquez à penser que vous êtes dominateur, alors que l'Esprit de Dieu veut que vous soyez soumis. C'est la même chose dans les couples, dans les familles, si l'homme domine, eh bien, il est en train, vous savez, j'en ai entendu des hommes qui disent, ah, c'est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris, donc je veille à ce que ça marche. Mais si le mari soumet sa femme, si le mari impose à sa femme d'être soumise, comment peut-elle se soumettre à son mari? Elle ne le peut pas, parce que c'est lui qui domine et qui l'a soumise. Mais si l'apôtre Paul a dit ça, c'est qu'il a demandé, il a considéré que la femme n'est pas mise en dessous, parce qu'il ne peut pas demander à une femme de se soumettre si elle est déjà soumise, si elle est déjà en dessous. Il considérait les femmes comme étant à l'égalité des hommes. Et il demande à la femme, dans certaines situations familiales, de se mettre en dessous. Mais c'est au mari de se mettre en dessous à ce moment-là, pour élever sa femme, de sorte à ce qu'elle puisse obéir à la parole et se mettre en dessous. Et c'est un jeu constant d'inversion pour éviter la perversion. Et c'est tellement spirituellement merveilleux, l'équilibre de Dieu dans les couples, l'équilibre dans l'Église, où les responsables doivent considérer les autres comme étant au-dessus d'eux, de sorte à ce que les gens de l'Église puissent considérer les anciens comme étant au-dessus, pour que les anciens puissent considérer les autres comme étant au-dessus d'eux. Le Seigneur est celui qui nous anime dans ce processus. C'est lui qui nous délivre du narcissisme, de cette tendance à se croire merveilleux, à croire que nos idées, notre façon de gérer la France serait tellement meilleure. Si vous pensez ça, présentez-vous aux élections. Mais je peux garantir que si vous êtes élu, la France souffrira beaucoup, et beaucoup plus que ce dont elle souffre actuellement. Mais nous avons le privilège d'être dans un pays qui rembourse énormément les frais médicaux. Nous avons le privilège d'être dans un pays où il y a de l'assistance sociale. Limitée, certes, elle ne peut pas faire l'impossible, mais on est parmi les privilégiés. Alors qu'on prie pour les autorités. Et que dans cette année qui va commencer, on puisse dire au Seigneur, je voudrais par ta grâce toujours me soumettre à toi. Pour que dans cette position-là, si tu m'élèves, alors je inverse ce que je sais très bien faire, la situation, pour que toi tu sois au-dessus et que moi je sois en dessous. Et ça change la personnalité. Votre esprit change, votre caractère change, votre personnalité change. Et vous êtes libéré de vous-même. Parce que c'est l'esclavage le plus flagrant, c'est l'esclavage de soi-même. On a besoin d'être libéré de soi. On a besoin d'être libéré de notre nature dominatrice. Dominatrice sur les autres, mais dominatrice sur nous-mêmes aussi quand on se voit dans le miroir ou dans le reflet de l'eau. Ainsi, on ne sera plus appelé Père, Dieu est Père, comme Joab, le sens de Joab, le sens du prénom Joab, ça veut dire Dieu est Père. Alors qu'on est appelé fils de Tseruya, fils de ta mère, eh bien le Seigneur va nous appeler, va dire Dieu est Père, mais il va nous appeler fils de Dieu, fille de Dieu, par cohérence aussi. Et que le Seigneur travaille dans nos esprits, dans nos cœurs, pour que nos réactions, nos pensées, nos façons d'être soient guidées par le Saint-Esprit, par la soumission au Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous garde. Amen.